VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Il est midi à Bangui, bonjour à tous. La sixième conférence nippo-africaine TICAD s'ouvre samedi à Nairobi avec la volonté pour Tokyo de se démarquer de l'aide fournie par Pékin. C'est la première fois depuis son édition initiale en 1993 que la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, en abrégé TICAD, se tiendra sur le continent. Le premier ministre japonais Shinzo Abe et plusieurs membres de son gouvernement participeront les 27 et 28 août à cette conférence qui définit le programme d'assistance du Japon à l'Afrique. Une trentaine de chefs d'État africains seront de la partie, dont le président kényan Uhuru Kenyatta et son homologue sud-africain Jacob Zuma, avec qui M. Abe tiendra aussi une réunion bilatérale. En République centrafricaine, la lutte contre l'épidémie de choléra se poursuit. L'épidémie déclarée début août en Centrafrique a déjà fait 19 décès pour 169 cas recensés. Pour stopper la progression de cette maladie, des ONG nationales et internationales se saisissent de la situation. Plusieurs points de riposte et de réhydratation sont installés le long du fleuve Ubangui. Médecins sans frontières a rendu opérationnel plusieurs unités de traitement dans plusieurs localités. Emmanuel Lampard, chef de mission MSF Belgique.
En tant qu'agence technique en appui direct au ministère de la Santé, nous travaillons en étroite collaboration pour nous assurer que les cas sont détectés rapidement et qu'une réponse est apportée avec les équipes de réponse rapide que nous avons mis en place pour faire la détection, la prise en charge des cas, désinfecter les localités.
Les Nations Unies ont exprimé à Kinshasa leur préoccupation face à l'extension de cette épidémie de choléra en RDC, qui a touché donc 15 000 personnes et fait plus de 380 morts depuis le début de l'année. Selon l'OMS, une réunion transfrontalière entre les autorités sanitaires de la RDC et celle de la République centrafricaine sera organisée dans les jours à venir afin de définir les stratégies communes de lutte contre cette épidémie. La page politique avec le Gabon, quelques 600 000 électeurs sont appelés aux urnes samedi 27 août. Dans plus de 2 500 bureaux de vote, ils auront à choisir parmi une dizaine de candidats, dont les plus en vue sont le président sortant Ali Bongo Ondimba et Jean Ping, ancien président de la Commission de l'Union africaine. La campagne qui se termine demain vendredi a surtout été marquée par des invectives, accusations et contre-accusations, et chaque camp est convaincu de remporter la victoire. Le scrutin sera surveillé de près par des milliers d'observateurs nationaux et internationaux. Est-ce que tout est fin prêt pour la tenue du scrutin sous haute tension? Idriss Fall, notre envoyé spécial à Libreville, s'est entretenu avec Guy-Serge Binyumba, président de la commission spéciale chargée de l'accueil des observateurs au Gabon.
Oui, en ce qui concerne la commission, tout est prêt, puisque nous nous chargeons du volet accompagnement des observateurs nationaux et internationaux à cette élection. Notre travail est de faciliter toutes les conditions matérielles qui vont permettre le déploiement des observateurs sur le terrain. Il s'agit essentiellement des documents d'identification pour permettre aux observateurs d'accéder au bureau de vote, leurs droits dans l'accomplissement de leur mission. Nous allons accréditer plus de 1000 observateurs sur l'ensemble du territoire national pour cette élection. Il y a à la fois des observateurs nationaux et quand je parle d'observateurs internationaux, il s'agit aussi bien des grandes institutions internationales telles que l'Union européenne, l'Union africaine, l'Organisation internationale de la francophonie, etc., ainsi que de nombreuses organisations non gouvernementales, des groupes de la société civile, du Cameroun, du Togo, du Bénin, etc.
L'Union européenne, ce serait une première, non?
Oui, c'est la première fois que l'Union européenne va mener cette mission d'observation au Gabon sur invitation du gouvernement gabonais.
Les observateurs, leur rôle, c'est quoi? Est-ce que c'est après les élections de toujours dire que ça s'est bien passé? C'est quoi leur rôle en réalité?
Le rôle des observateurs est de pouvoir suivre le processus électoral, suivre les conditions dans lesquelles ce processus déroule de façon à identifier, si c'est le cas, tous les aspects négatifs qui peuvent être améliorés pour justement permettre à l'avenir des élections beaucoup mieux organisées et in fine faire en sorte que les élections soient des élections les plus transparentes possibles, les plus justes possibles, les plus sincères possibles. Donc c'est une mission d'accompagnement pour faire en sorte que les élections soient le moins contestées possible, si d'aventure, justement, toutes les conditions d'une élection sincère, crédible et juste sont réunies.
Est-ce que vous pensez que ce sera le cas pour le scrutin du 27 août ?
Il existe au Gabon un code électoral. L'organisation des élections est encadrée par un ensemble de textes et tous ceux qui sont peu ou prou impliqués dans l'organisation des élections sont astreints au respect des dispositions prévues en la matière, et de ce point de vue, on ne peut pas douter que les élections se dérouleront conformément à ce qui est prévu par la loi, et donc elles se dérouleront normalement.
Le professeur Guy-Serge Binyumba, président de la commission spéciale chargée de l'accueil des observateurs au Gabon. Affaires de mœurs, trafic de drogue, les scandales impliquant des responsables de la mouvance islamiste se multiplient au Maroc à l'approche des élections législatives d'octobre, suscitant pêle-mêle, ironie, polémique et théorie du complot sur fond d'intenses luttes politiques. Dimanche, le site privé en ligne Al-Aldat révélait avec force détail comment deux responsables de l'aile religieuse du PJD, le Parti Justice et Développement, à la tête du gouvernement de coalition depuis fin 2011, ont été interpellés par la police samedi au sud de Rabat dans une posture sexuelle. À un mois et demi des législatives du 7 octobre qui s'annoncent particulièrement discutées, l'affaire fait grand bruit au Maroc. Elle est évidemment une aubaine pour les rivaux politiques du PJD et plus particulièrement pour les libéraux du parti Authenticité et Modernité.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Italie, les secouristes continuaient de fouiller des tonnes de décombres ce matin après une nuit de recherche apparemment peu fructueuse dans l'espoir de trouver de nouveaux survivants après le séisme qui a fait au moins 247 morts dans le centre de l'Italie. Le bilan des victimes n'a cessé de s'aggraver depuis la secousse meurtrière qui a ravagé et partiellement détruit plusieurs villages de montagne mercredi matin. Plus de 24 heures après le drame, des questions se posent aussi sur les raisons d'un bilan aussi lourd dans une zone relativement peu peuplée et composée uniquement de villages. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné aujourd'hui de vastes manœuvres militaires dans plusieurs régions russes, dont celles incluant la Crimée et la zone frontalière de l'Ukraine, plaçant l'aviation troupes à reporter et la flotte russe du Nord en état d'alerte maximale. Ces exercices visent à tester la préparation au combat des unités concernées et doivent durer jusqu'au 31 août. Présidentielle américaine, parallèlement aux emails de Hillary Clinton, c'est maintenant la question des dons à la fondation de son époux qui fait des vagues. La polémique résulte de la récente analyse de l'agence Associated Press. Timothée Donangmaï.
Selon l'agence, plus de la moitié des personnes qui l'ont rencontrée alors qu'elle était secrétaire d'État ont fait des contributions financières personnelles à la fondation Clinton ou l'ont fait à travers des compagnies ou des associations. Pourtant, la candidate démocrate se concentre sur sa campagne, n'ayant aucun projet immédiat d'interview ou de conférence de presse pour s'expliquer sur ses dossiers. Elle n'a aucun conflit d'intérêt avec les œuvres charitables de la Fondation Clinton, assure Robbie Mook, porte-parole de l'équipe Clinton, ajoutant que l'analyse d'Associated Press est biaisée dans la mesure où, dit-il, celle-ci ne prend pas en compte les rencontres au département d'État entre Mme Clinton et des responsables gouvernementaux ou étrangers. Pour l'heure, Mme Clinton devance Donald Trump dans les sondages d'opinion au plan national, si bien que ses conseillers jugent peu utile pour elle de se livrer à un exercice d'explication à ce stade. Son discours prévu ce jeudi à Reno dans le Nevada aura donc pour cible Donald Trump. Trump lui-même appelle à la fermeture immédiate de la Fondation Clinton et à la désignation d'un procureur spécial pour ouvrir une enquête à ce sujet.
L'ONU a réclamé aujourd'hui la création d'un organisme international indépendant pour enquêter sur les violations des droits de l'homme au Yémen en proie à un conflit qui a fait plus de 6 600 morts depuis 17 mois. Les civils au Yémen souffrent de manière insoutenable en dehors de toute forme de justice, tandis que l'impunité prévaut pour les personnes responsables de violations, a déclaré le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zaid Raad Al-Hussein, en réclamant une enquête internationale. Et puis au Brésil, le Sénat donne aujourd'hui le coup d'envoi du dernier acte du jugement d'institution de la présidente Dilma Rousseff sous l'égide du président de la Cour suprême. La séance plénière des 81 sénateurs décidera si la dirigeante de gauche doit ou non quitter la présidence pour avoir maquillé les comptes publics et signé des décrets engageant des dépenses à l'accord du Parlement. Jean-Roger Billon à ce microphone. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francisque. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.